Étranger, ici tu seras bien si tu y restes. Ici, le souverain bien est le plaisir. Inscription que l'on pouvait lire à Athènes, à l'entrée du jardin d'Épicure. Bienvenue dans le jardin, cet espace ouvert et accueillant où l'on aime à se retrouver entre amis. Le jardin est un podcast qui explore la création littéraire en s'intéressant d'abord et avant tout au quotidien, à la pratique, à la vie des autrices et des auteurs. Vous êtes prêts? Donnons tout de suite la parole à notre invité.
Je vois vraiment le temps comme une ligne verticale et pas horizontale, avec toutes ces strates que nous accumulons, qui nous transforment, mais en même temps où restent du passé des traces qui souvent reviennent nous habiter. Et l'autre chose qui m'intéresse beaucoup, c'est le rapport à l'autre. Donc l'autre joue vraiment un rôle très important dans mon écriture, qui n'est pas du tout une écriture de tour d'ivoire et de solipsisme. Je suis dans la vie.
Bonjour Catherine Cusset.
Bonjour.
Je suis vraiment ravi de vous rencontrer aujourd'hui sur le salon du livre d'Asnières, où vous êtes présente pour le lancement de votre nouveau livre paru chez Gallimard, La définition du bonheur. Mais avant que vous nous parliez de ce livre-là, j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir écrivaine? Alors, vous dites écrivaine, vous dites autrice, qu'est-ce que...
Oui, maintenant, je me suis tout à fait habituée au féminin, je dis écrivaine et autrice. C'est vrai qu'il a fallu s'y habituer. Ce qui m'a donné envie, tout simplement, le fait que moi, j'adore lire. Ça a été vraiment ma passion prédominante depuis l'enfance. Je passais d'ailleurs mon temps enfant à inventer des histoires, même. Ma sœur, elle appelait ça mes princesses. Je dessinais, j'inventais des histoires, et après, la passion d'être de lire et d'être dans un autre univers, en fait, par rapport... à la vie, que je trouve, je sais pas, j'aime bien m'échapper, j'aime bien être dans un univers parallèle. Je trouve que dans les livres, tout est toujours plus beau. Et c'est ce que j'ai eu envie de faire, c'était d'écrire, parce que j'aimais lire.
J'ai lu que il y avait l'autofiction, et puis les États-Unis qui pouvaient être deux grands champs d'investigation dans vos romans et dans vos écrits. D'où ça vous vient l'idée comme ça d'un nouveau roman? Comment vous vous fixez sur une idée?
Déjà, les États-Unis, c'est parce que j'ai vécu 30 ans à New York, donc évidemment les États-Unis sont présents dans presque tous mes livres parce que ma vie a été là-bas, quoi. Et d'où vient un livre? Alors, j'ai pas seulement... Il y a des autofictions dans mon œuvre, il y a Jouir, Confession d'une radine, La haine de la famille... Une éducation catholique, ce sont vraiment des livres où j'explore mon rapport à la vie, à la famille, mais il y a aussi des vrais romans. Le dernier, La définition du bonheur, c'est un vrai roman, c'est-à-dire qu'il y a des moments où... Moi, ça m'intéresse beaucoup d'écrire à partir de ma vie, mais pour le faire, il faut deux choses. Il faut vraiment qu'un sujet devienne très important et que le livre sorte de façon presque organique. Et il faut aussi pouvoir le faire sans... blesser les personnes qui m'entourent. Moi, c'est très important pour moi de... Je ne peux pas me mettre à tout dire si ce n'est pas possible dans ma vie. Quoi. Voilà. Et tandis que le roman, pourquoi a-t-il été prédominant au 19e siècle? Le roman, il offre un voile, il permet de parler de sa vie, mais à travers une fiction, donc à travers un voile. D'où vient l'idée du roman? Moi, je suis inspirée d'abord par les personnages, par les personnes. C'est vraiment la vie qui m'intéresse, c'est les gens, c'est le rapport entre les gens, c'est la famille, c'est le rapport au temps. Je crois que le temps, c'est vraiment le sujet prédominant de mes livres, qui sont souvent sur de longues durées. Un brillant avenir, c'est un livre sur 50 ans, La haine de la famille, c'est 3 générations, La définition du bonheur, sur 40 ans, L'autre qu'on adorait, c'était La vie d'un ami, sur 22 ans de sa vie. C'est vraiment le mouvement de la vie qui m'intéresse, c'est-à-dire à travers le temps, ce qu'on devient, ce qui change en nous, ce qui résiste, ce qui persiste. Je vois vraiment le temps comme une ligne verticale et pas horizontale, avec toutes ces strates que nous accumulons, qui nous transforment, mais en même temps où reste du passé des traces qui souvent reviennent nous habiter.
Avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare.
Et l'autre chose qui m'intéresse beaucoup, c'est le rapport à l'autre. Je pense qu'on est des êtres, on existe en société, on existe par rapport à l'autre. Moi, la vie, je la vois, je ne cesse de regarder les vies des autres, de me comparer, c'est sans doute très mal, je suis probablement quelqu'un d'inquiet, d'envieux. Mais je trouve que c'est très important, cette question du rapport à l'autre. Et dans la définition du bonheur, il y a deux personnages, Clarisse et Ève, qui ont des vies très différentes et qui finissent par se rencontrer et par finalement on les voit l'une par les yeux de l'autre. Et c'est comme ça qu'on est dans la vie, on se voit toujours par les yeux de l'autre et on se compare à l'autre. Donc l'autre joue vraiment un rôle très important dans mon écriture, qui n'est pas du tout une écriture de ce tour d'ivoire et de solipsisme. Je suis dans la vie, je pense.
Oui, donc vous vous intéressez sur des longues périodes de temps comme ça. Est-ce que ça vous vient un peu aussi du roman américain, justement, où ils sont assez forts comme ça pour des grandes sagas ou familiales ? Enfin, là, je pensais à un des derniers romans de Paul Auster. Comme ça, on s'intéressait à toute la vie de...
Mais ce qui est sûr, c'est que le roman américain, le roman anglo-saxon est un roman plus concret et moins introspectif. Je pense que le roman français... Bon, il se trouve que j'ai vécu aux États-Unis 30 ans. Je ne sais pas du tout s'il y a une influence ou pas, je ne me rends pas compte. Mais moi aussi, j'ai une écriture très visuelle et j'exprime souvent les sentiments par le dialogue ou par le corps ou par les détails, par les faits, par ce que font les personnages. Donc, je n'ai pas une écriture introspective.
Donc, c'est plus factuel et plus...
Oui, c'est plus factuel, mais chaque fait exprime quelque chose. D'ailleurs, dans mon écriture, je fais toujours très attention. Je coupe au maximum, j'essaye de pas en dire trop, d'être rapide. D'ailleurs, une autre chose qui est très importante pour moi dans l'écriture, c'est le rythme. J'ai besoin que les livres aillent vite, enfin, que dans l'écriture, ça aille. Il y a une sorte de rapidité, en fait, qu'on a envie de continuer tout le temps. Souvent, on dit de mes livres que ce sont des page-turners, mais je ne raconte pas du tout des histoires extraordinaires. Je raconte des histoires extrêmement banales. La définition du bonheur, c'est l'histoire de ces deux femmes. Il se passe que des choses qui arrivent dans la vie de toutes les femmes. Mais ce qui donne ce côté un peu trépidant, je pense que c'est le rythme de l'écriture. C'est vraiment essayer d'en dire le moins possible, de le dire entre les lignes et d'aller très vite.
Et alors le rythme, c'est parce qu'il y a des actions comme ça sur chaque page ou comment on crée cette sensation de rythme ?
Je pense qu'on crée la sensation de rythme en réfléchissant au départ à quel est l'objet, qu'est-ce que c'est que j'essaie de raconter ? De quoi je parle ? De quoi s'agit-il ? Par exemple, je prends une histoire dans la définition du bonheur qui raconte un accouchement d'Ève tout à fait rocambolesque dans un taxi à New York. Alors l'histoire, ok, d'accord, en soi, c'est une histoire qui peut-être vaut le coup d'être racontée, mais pourquoi la raconter ? Pourquoi dans mon roman parler de cet accouchement dans un taxi à New York ? Eh bien, j'écris cette histoire parce qu'à travers cette histoire, qui est en soi dramatique et pleine d'action, à travers cette histoire, j'ai un but. Qui est de raconter, qui est de montrer le couple de Paul et Ève, l'amour qui les lie, la confiance, vraiment c'est ce lien d'amour entre eux. Sachant cela, tout ce que j'écris à travers cette histoire va être quelque part relié de façon invisible, de façon non explicite, à cette chose que je veux démontrer et qui est l'amour. Et donc, vous voyez, il y a un principe d'organisation. Et dans le roman, pareil, il y a un principe d'organisation. Donc c'est pour moi une question de respecter la ligne de mon roman, la ligne de mon histoire, de savoir éliminer de cette ligne tout ce qui finalement est des digressions, est pas utile, et ralentirait, et nous emmènerait ailleurs. Je cherche à vraiment... C'est ça qui donne l'impression de vitesse. C'est de toujours s'en tenir à l'idée principale.
Et donc justement, dans cette ligne, est-ce que ça voudrait dire que, par contre, sur la vie de 40 ans de vie de personnage, est-ce que vous allez écrire une sorte de plan comme ça, qui va aller jusque voilà, de l'année 0 à l'année 40, ou est-ce que ça vient au fil de l'écriture ?
Alors, il y a une idée de départ, il y a une vision au départ. Là, au départ, enfin, c'est pour ce roman-là, la définition du bonheur, c'est compliqué, parce que l'idée de départ, elle est venue du personnage de Clarisse, d'une femme qui traverse des choses très dures, qui est abandonnée. Moi, j'ai un peu une hantise du désamour et de l'abandon, donc, qui se retrouve à élever seule ses trois fils, qui vraiment a une vie dure et qui c'est une hantise de la solitude et en même temps une énergie érotique, une énergie de vie qui en fait quelqu'un de très vivant alors même que les années passent, qu'elle a 55 ans, elle a toujours des amants, elle est dans la vie. Donc au départ, mon roman, il est né de là. Puis je lui ai ajouté le personnage d'Ève qui était comme un contrepoint du personnage de Clarisse. Et après, donc vous voyez, j'avais une ligne qui était celle de Clarisse avec son arc de vie, puis j'avais une ligne qui était celle d'Ève, mais ce qui était compliqué, c'est qu'après j'avais ces deux lignes qui se rejoignaient, et qu'est-ce qui se passait entre elles ? Et ce que je voulais qu'il se passe entre elles, c'était justement les voir l'une par les yeux de l'autre et les transformer par ce double regard. Et qu'on ne croit pas, il y en a une qui des deux est la gagnante, ou une des deux qui comprend mieux, qui qui est plus dans le bonheur que l'autre. C'est pas ça que je cherchais à dire. En fait, c'est un roman complexe parce que il montre qu'on est toujours dans le rapport à l'autre et que c'est rien n'est simple. Et à la fin du roman, c'est un roman qui a une fin tragique pour un des personnages, mais en même temps, c'est pas la fin. Il y a un roman dans le roman. Il y a quelque chose que j'ai donné à ce personnage, qui est un accomplissement d'un désir qu'elle avait, pas en dire plus, mais donc qui fait de ce roman, je crois parmi mes romans, un roman moins dur, un roman plus doux, un roman plus apaisé. C'est ce qu'on m'a dit beaucoup et je comprends pourquoi. Je pense que c'est... Je sais pas, peut-être je suis plus réconciliée avec la vie. Voilà, en tout cas, c'est un roman plus apaisé.
Je voulais revenir sur la vie de David Hockney, qui était une biographie, mais romancée. Là, pourquoi justement avoir choisi ce peintre parmi tous les peintres existants comment vous vous êtes fixé aussi sur cette histoire-là, sur ce personnage-là?
Alors, tout à fait,
ou en couleur,
pour le coup, pour celui-là, c'est par hasard. C'est pour ça que je ne considère pas d'ailleurs que c'est un des livres essentiels. J'ai envie de dire, mes livres essentiels, ils sont venus de quelque chose, d'une obsession en moi, de quelque chose qui me travaillait. Je vous dis, pour la définition du bonheur, c'est la question de l'abandon et du désamour et le vieillissement, la peur de la solitude. Donc c'est ça qui m'a habité au départ. Là, pour Vie de David Hockney, on m'a proposé d'écrire un texte sur son œuvre. J'avais jamais fait, j'ai regardé son œuvre, mais surtout j'ai commencé à lire des choses sur lui et de lui, enfin des interviews, et j'ai entendu sa voix à travers ce que je lisais. Et cet homme avait une liberté, une désinvolture, quelque chose qui m'a énormément plu, qui d'ailleurs pour moi se rapprochait de Thomas dans L'autre qu'on adorait. C'était le même genre de personne, extrêmement libre et avec une sorte de soif de vie, une sensibilité artistique immense, un humour incroyable. Et j'ai eu envie d'écrire le roman de sa vie, c'est-à-dire écrire sa vie, tout est vrai dans Vie de David Hockney, mais de l'écrire de l'intérieur, finalement en ayant une ligne, pareil, comme dans mes romans. C'est-à-dire vraiment pas du tout une biographie pleine de détails. Non, ce qui m'a intéressée, c'était de voir l'arc de sa vie. Et je crois que c'est pour ça qu'on le lit comme un roman, c'est que c'est pareil, je commence et je me dirige quelque part, je sais où je vais, et tout ce que je dis dans le livre se rapporte à cette ligne qui est finalement le nerf de ce roman. Et je l'amène vers la fin du roman, qui est cette réalisation que la chose essentielle... Il a été parfois au bord du suicide, hein, David Hockney, comme Thomas dans L'autre qu'on adorait. Il ne s'est pas suicidé parce qu'il avait la création, il avait l'œuvre. Et donc, il y a cette espèce de savoir qui lui vient à travers toutes ces épreuves qu'il traverse. Il faut se rappeler qu'il a quand même traversé des années sida, que les trois quarts de ses amis sont morts dans ces années sida. C'était quand même extrêmement violent. Et lui, de cette mort et de cette violence, il sort une œuvre qui est comme des fleurs, quoi. Cette œuvre enchanteresse, cette vision enchanteresse de la vie. Et voilà, c'est tout ça. J'ai voulu dire à la fois le rapport entre la mort, la création, la vie, le bonheur, la dépression. Et il y avait une ligne que j'ai suivie à travers l'écriture de ce livre.
On a bien suivi cette ligne-là. Je voulais aussi... Alors, vraiment, là, c'est une question plus au quotidien de l'écrivaine ou de l'autrice. Est-ce que vous vous fixez, quand vous commencez un nouveau projet, soit des contraintes en termes de temps, ou même des contraintes alors de style? Est-ce que vous avez besoin d'un cadre comme ça qui vous permet de savoir où vous allez et d'encadrer un peu votre journée de travail?
Alors là, vous me parlez dans un moment un peu particulier dans ma vie, parce que j'ai quitté les États-Unis avant l'été, j'ai écrit tous mes romans aux États-Unis. Et vous dire la vérité, je pense que je suis un peu perdue. Bon, il y a la promotion de la définition du bonheur qui m'a beaucoup occupée, mais je vois que j'ai pas envie de la quitter. J'ai un petit peu peur de me retrouver. Alors, mon chez-moi maintenant, c'est en Bretagne, c'est le bout du monde, c'est magnifique, c'est le bout de la presqu'île de Crozon, c'est proche de la mer, c'est très sauvage. Je suis une vraie citadine, moi. Donc, évidemment, je crois que j'ai un peu peur et en même temps, j'ai un grand désir de solitude. Pour l'instant, je suis un peu dans la fuite. Et donc, qu'est-ce que c'est ma journée? Oui, il faut que ça soit très calme. En fait, à New York, je vivais comme j'espère je vivrai en Bretagne. Je vivais dans la solitude. J'avais une routine, une vie très calme. J'écrivais chez moi le matin. L'après-midi, j'allais me promener. Je fais beaucoup la cuisine aussi. C'est une routine. J'ai besoin d'une routine. Et cette routine, il va falloir que je la recrée en Bretagne.
Dans un cadre totalement différent.
Dans un cadre différent, mais en même temps, je pense que j'aime tellement la nature, j'aime tellement aller... J'ai besoin... Dans ma journée, il faut qu'il y ait une promenade. Et si cette promenade est dans la nature, c'est mieux qu'une promenade en ville. Donc a priori, ça devrait être très bien. Mais j'ai toujours été un peu aussi habitée par cette peur de l'isolement et de la solitude. Donc c'est vrai que j'espère que je vais trouver ce rythme en Bretagne. J'écris le matin. Je me réveille et il faut vraiment que je parle à personne. Ça tombe bien parce que j'ai un mari qui déteste parler à qui que ce soit au réveil. Bon, autrefois, il partait de toute façon travailler une heure avant, à 6h du matin, donc bien avant que je me lève. Donc je me levais, ma fille partait à l'école et j'étais seule. Et là, maintenant, il est là aussi, il est dans la maison, mais il ne parle pas et je peux être vraiment entièrement seule. Et c'est très important, silence, solitude, me mettre à mon bureau. Et alors voilà. Et quand je suis dans un premier jet... Je ne travaille pas tant que ça. Je trouve que c'est un énorme effort, un premier jet. C'est très difficile. C'est vraiment arracher quelque chose de soi. J'écris pas tellement plus qu'au maximum, je dirais 3 heures par jour. Et je trouve ça épuisant. Je suis épuisée. Donc après, il faut que je cuisine ou j'aille me promener. Pas tellement lire, d'ailleurs. Je lis pas tant que ça quand j'écris. Parce qu'il faut que je reste dans ma bulle. Et je lis, bon, par contre, je lis énormément quand je suis pas en train d'écrire. Et puis, après, par contre, quand je suis en réécriture, parce que l'écriture, finalement, ça prend quelques mois, mais la réécriture, ça peut prendre 2 ans. Alors là, la réécriture, c'est des journées qui peuvent aller jusqu'à... Écoutez, elles peuvent aller jusqu'à 16 heures par jour. C'est le maximum.
Hein. Ah oui?
Oui. Il m'est arrivé de faire une journée de 16 heures que j'ai voulu suivre d'une autre journée de 16 heures, mais au bout de 10 heures de la deuxième journée de 16 heures, j'avais très, très mal à la tête. Mon corps ne suivait pas. Et j'étais obligée de m'interrompre et d'aller me promener. Je n'avais pas le choix. Mais facilement, de 8 à 10 heures dans la réécriture. Vous voyez, c'est très différent. Donc, il y a vraiment la phase de création qui est difficile, où je m'arrache quelque chose et... où ça se limite à 3 heures, c'est un effort énorme. Et par contre, après, j'adore le retravail, quoi. Ça, j'adore.
Dans cette phase-là de retravail, de réécriture, vous êtes toujours seule ou vous avez un lecteur?
Non, je suis toujours seule. Après, il y a une troisième étape.
Troisième étape.
C'est vraiment la troisième. C'est quand je considère que là, j'ai terminé. Et là, en même temps, j'ai considéré que j'ai terminé, mais je sais que je ne l'ai pas terminé. Je sais qu'on est toujours aveugle à soi-même. Il y a des gens qui font entièrement confiance avec un éditeur, ils font confiance à l'éditeur. Moi, je suis quelqu'un d'indécis, d'inquiet, d'anxieux. Donc, avant de montrer à l'éditeur, j'ai un groupe d'amis et je leur donne à lire, mais à plusieurs. Et j'ai besoin d'avoir plusieurs échos à la fois. Et si on me dit, s'ils sont tous contradictoires, je ne sais pas si j'en tiens compte, mais si 3 personnes sur 5 me disent « Ah oui, j'ai trouvé que cette partie-là était un peu longue », je me dis « Ah, il doit y avoir quelque chose là ». J'essaye de comprendre.
C'est une bonne méthode.
Voilà. Donc, et je suis pas du tout. Voilà, on peut me dire des choses très dures. C'est arrivé. J'ai un groupe d'écriture aussi à New York qui parfois m'a dit des choses vraiment très dures. Mais j'adore. Enfin, ils le savent. C'est pour moi. Ça ouvre les yeux. Et ça permet du coup, si c'est ça qu'on voulait faire, de s'affirmer soi-même, de dire ok, ils ont pas aimé, mais en fait c'est ça que je voulais faire. Donc ça, voilà, c'est une façon d'avoir conscience de ce qu'on fait. Je trouve que c'est bien.
Oui, là, vous avez dit groupe d'écriture. Ça m'intéresse, ce sujet, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de... Enfin, le creative writing, où les écrivains peuvent se retrouver pour échanger, pour briser la solitude, justement. Mais en France, c'est moins populaire,
oui,
c'est moins inscrit à l'université.
Il y a maintenant
etc.
beaucoup d'ateliers,
voilà,
hein,
beaucoup d'ateliers.
Mais là, le groupe d'écriture, d'ailleurs, dans mon roman, dans La définition du bonheur, j'ai un chapitre entier sur un groupe d'écriture. Mais ce qui n'est pas du tout autobiographique, parce que le personnage que dans le roman, Clarisse, elle se prend ce groupe d'écriture comme une immense claque. Parce que quand on vous parle de votre écriture, on vous parle de quelque chose de très intime, surtout si vous écrivez quelque chose d'autobiographique. Et tout à coup, on vous parle de votre écriture, mais en fait, c'est de vous qu'on parle. Et là, dans La définition du bonheur, elle a donné à lire cette nouvelle sur une relation entre une femme de 60 ans et un garçon de 25. Elle en a 55, elle a une relation avec un très jeune homme. Et le groupe lui dit, non, mais la fin, ça va pas du tout. La fin, forcément, c'est tragique. De toute façon, il va la larguer. C'est évident que c'est un tramway nommé désir, quoi. Donc, il faut que tu écrives une fin vraiment qui est en accord avec tes prémices. Ça doit être terrible. Peut-être même qu'elle va devenir, qu'elle va se marier avec lui, qu'elle devra lui donner tout ce qu'elle a. Enfin, voilà. Et cette femme se retrouve dans la rue à se dire, mais elle est pathétique. Enfin, elle se dit que voilà, qu'on lui a renvoyé un écho d'elle-même à travers ce groupe d'écriture et ce miroir. Voilà, c'est l'écriture, elle sert souvent de miroir, hein, et les autres aussi. Hein. Il y a quand même un effet miroir. Et moi, j'aime ça. Moi, j'aime qu'on me, j'aime me prendre des claques. Voilà.
Et donc, vous, à ce groupe d'écriture, vous pouvez leur confier entre guillemets des parties de votre roman, ou c'est des écritures qui n'ont rien à voir avec...
Non, non, des parties de mon roman.
D'accord.
Oui, oui. Et c'est un groupe d'écriture en anglais. Alors, je me traduis en anglais. Alors, c'est plein de fautes, mais bon, c'est pas grave. Ils voient quand même, ils me disent.
Ils ont ce retour voilà. Miroir.
Oui, très utile. Là, et pour la définition du bonheur, je leur avais donné à un moment une partie dont j'étais très contente, qui était une partie tout à fait fictionnelle. Et c'est le début de ma deuxième partie, je ne peux pas raconter parce que sinon je casserai le suspense du livre, mais qui racontait la rencontre de ces deux femmes et qui révélait le lien entre elles. Et j'étais très contente de moi et je leur ai donné à lire et ils m'ont dit « mais c'est nul ». C'est vraiment pas ça, c'est vraiment pas intéressant. Et d'après ce qu'ils m'ont dit, j'ai vraiment réécrit. Et ils avaient raison, parce que quand on invente complètement, je trouve que moi, dans l'écriture, le but, c'est de... Si j'écris quelque chose d'inventé, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'écrire de l'autofiction, entre parenthèses, d'écrire sur ma vie. Mais si j'invente quelque chose, je veux vraiment l'écrire comme si je l'avais vécu. Et ce « comme si je l'avais vécu », c'est ça qui est tellement difficile. Parce que c'est... Si on n'a pas vécu quelque chose et que l'écrire comme si on l'avait vécu, il faut sans doute une imagination que j'ai pas, je ne sais pas. Et je dois essayer de me mettre dans la tête de quelqu'un d'autre, voilà, et c'est pas simple.
Et cette critique, c'est pas trop violent, parce qu'on disait que ça pouvait être pris de manière très personnelle, enfin, selon...
Non, moi, ça
raconte,
m'a intéressé. Ils m'ont dit d'ailleurs, tu sais, il y a des gens à qui cette chose-là est arrivée, va écouter des podcasts. C'est très utile. Je suis allée écouter des podcasts, j'ai fait attention, j'ai réfléchi, je suis beaucoup plus rentrée. Enfin voilà, ils m'ont fait faire un travail que je n'avais pas fait.
Très intéressant. Je vais vous rendre
à... En fait, je crois à l'interaction, quoi, quand même. Je crois beaucoup à l'aveuglement sur soi. Donc, c'est mon but dans la vie, c'est de dépasser, c'est d'enlever les bandeaux, c'est d'en savoir plus sur moi, sur mon écriture. Quand j'écris quelque chose, il y a des gens qui sont tellement sûrs d'eux. Moi, je n'ai aucune idée. C'est bien ou c'est pas bien? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va me dire si c'est bien? Alors que c'est quand même l'écho des lecteurs. Hein. Je dois avouer que je ne sais pas... Pas de tous les lecteurs, il y a des gens forcément qui ne vont pas aimer ce que je fais. C'est une évidence. Hein. Si on plaisait à tout le monde, on serait un peu béni. Oui, oui. Hein. Donc on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui comptent plus pour moi que d'autres. Il y a des mots qu'on me dit, des critiques qui font plus écho que d'autres. Et voilà, c'est très important d'essayer d'avancer, d'en savoir plus sur moi, de comprendre davantage. Je crois au progrès, fondamentalement. Voilà, je suis quelqu'un qui croit au progrès.
C'est bien, c'est un message positif pour les gens qui nous écoutent. Je vais vous rendre aux gens qui sont venus quand même vous rencontrer sur ce salon. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Juste avant de se quitter, si vous aviez un conseil à donner justement à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'écriture, qui n'ose pas...
Je n'ai pas de conseil. J'aurais envie de dire écrivez, allez jusqu'au bout déjà. Allez jusqu'au bout, parce que justement je crois au retravail. Donc il ne faut pas se mettre à retravailler tout de suite, il vaut mieux aller jusqu'au bout. Une fois qu'on va jusqu'au bout, on a la vision de ce qu'on veut faire. Ensuite, l'œuvre, elle est souvent enfouie dans une première version. Une première version, moi j'en fais 25. Hein. Donc la première version, pour moi, c'est rien. Et deuxièmement, c'est pas un conseil, c'est que je pense que les écrivains, c'est uniquement ceux qui persévèrent, et que pour persévérer, il faut vraiment que la rétribution soit dans le travail lui-même. Sinon, je ne vois pas l'intérêt, parce que... On n'a pas que des rétributions, hein, quand on écrit. Hein. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a plus d'écrivains que de lecteurs. Voilà. Tout le monde veut écrire, mais je ne sais pas si tout le monde veut lire.
Voilà. On restera sur cette note. Je rappelle que votre dernier roman, La définition du bonheur, paraît chez Gallimard, et paru chez Gallimard.
Ouais.
Et je vous remercie beaucoup, Catherine Cussel.
Merci. Merci. Au revoir.
Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.